C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Actualité.
On parle souvent de la jeunesse de LGBTQIA+, mais qu'en est-il de ceux, celles et celles qui ont ouvert la voie? La Fondation Émergence organise le tout premier symposium au Québec consacré exclusivement aux réalités des aînés de la diversité sexuelle et de genre. Pour nous présenter cet événement historique, je reçois Laurent Brault, directeur général de la Fondation Émergence. Laurent, bienvenue à l'émission, à nouveau, parce que tu es un invité chouchou, on te reçoit souvent.
Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir.
Alors, Louise Deschâtelet animera la journée. Elle parle d'un sentiment d'urgence face à la montée de l'obscurantisme. En fait, on en parle tout le temps à l'émission, mais on n'a pas le choix. Est-ce que le climat, ce climat a motivé la création de ce symposium?
En fait, oui et non.
OK.
Donc, non dans le sens que le programme Pour que vieillir soit gay, c'est un programme qui existe depuis 2009. Donc, c'est un des premiers programmes, j'oserais dire, au monde,
oui,
sur les réalités aînées LGBTQ+. Et ça fait longtemps que la Fondation travaille sur ces thèmes-là. Donc, pour nous, le symposium est une nouvelle étape, mais qui s'inscrit dans la continuité. Oui, dans le sens qu'on sent le besoin de faire un état des lieux, d'où le but de ce symposium-là. Donc, depuis 2009, on déploie le programme. On a vu des évolutions. On a vu des belles choses qui se sont réalisées. On est très fiers du parcours qui a été parcouru. Mais on sent qu'on est dans un nouveau cycle où on a besoin de se poser avec des experts, des intervenants communautaires, etc., pour faire, OK, où est-ce qu'on en est pour nos générations aînées?
J'allais dire le cycle orange, mais on va éviter les blagues. Pourquoi était-il impératif d'organiser ce premier symposium aujourd'hui en 2026?
On doit remercier en fait le gouvernement du Québec qui nous a octroyé des fonds jusqu'en 2029. Là. Donc oui, c'est un gros montant, mais réparti sur 5 ans, qui nous permet vraiment de sensibiliser l'ensemble des milieux aînés partout au Québec. Et comme on était encore au début, on est à la 2e année en fait de ce projet-là. L'idée, je reviens sur ce que je disais, en fait, sur un état des lieux pour bien démarrer, en fait, le programme pour que vieillir soit gay jusqu'en 2029. Donc, on a plusieurs thèmes qu'on va aborder, comme les besoins, les réalités, une nouvelle recension des écrits aussi qu'on va présenter sur le sujet. On a un sondage Léger Marketing avec des statistiques qui vont être fort intéressantes. Léger Marketing sera là pour le présenter.
Donc, on peut pas avoir de petite primeur ici, hein?
Ah, ben ce que je peux vous dire...
Je m'essaye tout le temps.
Ben juste pour toi, en fait.
OK, parfait. Personne, on va pas le dire à personne, promis.
Non, exactement. Mais en fait, c'est sûr que c'est un sondage où on a tenté de cibler le plus possible les résidents et résidentes, les visiteurs qui vont dans les milieux aînés. Donc, on a à peu près 786 répondants. Et sur ces 786 répondants, 42% des répondants affirment avoir entendu des propos négatifs ou des préjugés envers les personnes LGBTQ+ dans ces milieux.
Oh, okay.
Donc, on dit souvent que ces réalités-là dans les milieux aînés sont juste pas abordées, mais la réalité, c'est que oui, mais souvent d'une manière négative. Donc, on a un travail à faire pour que ça soit plutôt d'une manière positive.
C'est intéressant quand on entend qu'il y a un projet là, à San Francisco d'une construction d'une résidence personnes âgées quand même. On n'est pas encore rendu là au Québec. Hein?
On n'est pas encore rendu là. On n'est pas du tout à la Fondation là, fermé à ce qu'il y ait des résidences pour personnes aînées LGBTQ+. Il y a un exemple par contre sur la rue Follum où il y a une association avec aînés et retraités de la communauté. Par contre, nous, notre travail, c'est vraiment de rendre tous les milieux inclusifs parce qu'il faut se rappeler que les personnes aînées LGBTQ+, sont déjà dans ces milieux-là. C'est juste qu'on ne les voit pas.
C'est parce qu'il y a comme un retour dans le placard parfois.
Exactement. Donc, quand on vieillit de manière autonome, en forme, avec une liberté financière et tout ça, tu sais, on a une certaine liberté puis une certaine puissance sur sa vie. Donc, c'est plus facile de se défendre contre des propos homophobes et tout ça. Par contre, quand on tombe dans la sphère de perte d'autonomie, où on est pris en soin par des intervenantes, des intervenants, c'est là qu'à un moment donné, l'évaluation du risque est plus importante. Est-ce que c'est plus risqué de faire mon coming out? Est-ce que la personne qui prend soin de moi va vraiment comprendre ma réalité, va être ouverte ou il y aura un malaise? Donc, c'est en ce sens-là souvent qu'il y a un retour dans le placard rendu au 3e âge, ce qui est très triste.
Il y a une différence générationnelle. Je ne sais pas si... parce que je ne me rappelle jamais de quel âge que tu as, mais moi, j'ai vécu ça. Une époque où on était criminalisés. Peut-être, ben, c'était en 69, en 90. Moi, j'ai été un malade mental jusqu'à les années 90. Hein. Je ne sais pas si tu étais au monde dans ce temps-là, mais...
Je venais de naître, ça faisait quelques années déjà.
Ben, c'est quand même... Il y a des gens qui n'ont pas vécu ça, mais eux, ceux qui ont vécu ça, et souvent, c'est difficile pour eux de rendu à une certaine époque, quand ils sont dans des résidences, hein, de vivre ça.
Oui, exactement. Donc, dans nos formations, on rappelle souvent les quatre grands stigmates que nos communautés aînées ont connus. Là. Donc, tu en as énuméré une, qui est la pathologisation médicale. Mm-hmm. On pourrait ajouter la criminalisation de l'homosexualité jusqu'en 69. Donc, les gens qui sont nés avant, qui ont grandi à l'âge adulte, tout ça, ont été considérés comme des criminels.
Là. Puis la répression policière qui a continué même après la décriminalisation.
Absolument. Les gens qui sont allés voir Corps fantôme, là, la pièce de théâtre, c'est une belle manière de se projeter un peu dans cet univers-là et tout ça. Ajoutons à cela la communauté religieuse, le rejet, l'excommunion, le fait de considérer l'homosexualité comme un péché. Bon, aujourd'hui, l'Église considère l'acte homosexuel comme un péché, pas le fait d'être homosexuel. Bon,
tu vas me dire ça. C'est un peu étonnant qu'il y a plein de prêtres qui ne sont pas dans ce... Ah, on va les faire, oui.
Puis j'ajouterais la stigmatisation sociale, qui est juste, en fait, le poids du passé, les images négatives, les préjugés, les mots... Vous savez, donc, quand je donnais des cours au cégep comme stagiaire, je commençais mon cours en séparant le tableau en deux, puis je disais aux étudiants, écrivez toutes les insultes homophobes et transphobes que vous connaissez. T'sais. Puis là, ils remplissaient le tableau. Au début, ils étaient gênés. Hein, puis au bout de 15 minutes, ça se laissait aller. Puis ensuite, je disais, écrivez toutes les insultes envers les hétérosexuels que vous connaissez. T'sais. Puis là, ils sont pas capables d'en sortir. L'idée de l'exercice était de montrer comment le langage ici... qui est un stigmate social, là, traduit un rapport de domination.
Un exercice intéressant, ça. Qu'est-ce qu'un milieu de vie réellement sécuritaire là, quand pour une personne aînée de nos communautés?
Oui, très bonne question. Je pense que le but, c'est d'avoir un milieu où on peut être soi-même. On ne veut pas forcer les personnes aînées LGBTQ+ à faire leur coming out. Il faut respecter ça. Il y en a qui seront dans le placard toute leur vie puis qui vont le rester jusqu'à la fin de leur vie. C'est leur choix. Ce qu'on veut leur permettre, c'est d'avoir le choix de le dire puis d'avoir un accueil, de s'assurer que ça se passe bien, que les professionnels ont les bonnes pratiques inclusives, que le milieu soit accueillant, tout ça. Donc, c'est principalement ça que je dirais. Par contre, le défi, c'est que souvent, les milieux, c'est pas qu'ils sont homophobes comme tels, mais c'est parce qu'ils sont dans une neutralité où on se dit « Ah, l'homosexualité, ça, c'est dans le privé. Ça, c'est dans la chambre à coucher. » Mais dans les faits, être homosexuel, il y a une identité aussi autour, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Là. C'est nos amis, c'est souvent ces générations-là qui ont été « out » n'ont pas nécessairement eu d'enfants, parce que le mariage n'existait pas, l'union civile, tu sais, le droit à la filiation, tout ça. Fait que c'est sûr que c'est des générations qui faut respecter où elles sont aujourd'hui, mais c'est de s'assurer que si elles le souhaitent pouvoir faire leur coming out, bien au moins que les milieux aient démontré déjà de l'ouverture, que ce soit en mettant un drapeau, en énonçant des politiques, en permettant la formation pour que vieillir soit gay. On n'est pas méchant. Absolument, ça se passe très bien.
Bien, c'est justement parce qu'il y a plusieurs intersectionnalités. C'est un terme que les gens, que certaines personnes ne veulent pas entendre, mais c'est vraiment une réalité. Parce qu'on aborde aussi la réalité des personnes vieillissantes trans, racisées, vivant avec un handicap. Comment éviter, là, parce que la one size fits all, tu sais, ah oui, bien, ça se passe dans la vie privée. Bien oui, mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont aussi, on va se le dire, qui sont un peu plus exubérants, exubérantes, hein, pour pas dire le mot, des folles. Puis il n'y a rien de mal à être folle, on s'entend. Alors comment on amène tout ça dans un symposium, puis comment on s'assure que le vieillissement ne mette pas ces gens-là dans une situation précaire?
Oui, absolument, mais c'est tout un défi, hein. Il y a tellement de diversité, puis tu sais, on oublie que les générations aînées sont pas mal les plus nombreuses, finalement, en termes démographiques, donc il y a plus d'aînés LGBTQ+, que de jeunes. Mais pourtant, ils sont quand même assez invisibles à la base. Puis en plus, quand on ajoute toutes les intersections, c'est sûr que là, il y a une plus grande invisibilité. Donc nous, comment qu'on essaie de s'assurer de faire l'ensemble du panorama de la diversité? Ça va être par une présentation des écrits actuels de la recherche qui va spécifier les différentes réalités, les différentes identités. On a, c'est l'Espagne de l'Université Montréal en Alberta, qui sera malheureusement pas personne en ligne, qui va parler des réalités haines et trans. On a Diane Labelle pour la bispiritualité aînée, qui est tellement intéressante, Diane. On va aller aussi, on a un partenaire français, donc Stéphane Sauvé, les audacieuses, audacieuses, qui vont venir nous parler de, en France, comment ça se passe, puis qui ont comme un programme similaire au nôtre de Pour que rire soit gay. Puis notre cher demi, Denis Cormier-Piché, qui va nous parler aussi de, des réalités en lien avec le VIH. Donc ça, ça s'annonce pour être pas mal diversifié en termes de sujets.
L'isolement social, ça c'est un... Souvent, c'est aussi masqué hein, chez les personnes aînées gays ou queer. Quelle solution le symposium ou qu'est-ce qu'on peut préconiser comme, comme solution?
Ben, je ne veux pas devancer les pistes de solutions
qui seront... Je pose des questions sur des affaires qu'on ne sait pas tout de suite et on ne devrait pas le dire. Oui.
Ben, ce que je peux te dire, par contre, c'est que la Fondation a un programme qui s'appelle « Famille choisie ». Et qui aborde la question de la proche aidance dans les communautés LGBTQ+. Pourquoi famille choisie? C'est un peu en opposition à la proche aidance avec la famille biologique. Parce qu'on sait que nos générations plus aînées, plusieurs personnes ont connu le rejet de leur famille biologique. Donc, elles se sont reconstituées un réseau d'amis qui est devenu à la longue un réseau d'entraide en vieillissant, d'où la famille choisie. Puis je dirais, pour briser l'isolement, c'est sûr que la participation sociale et des activités est importante. Inclure les personnes aînées LGBTQ+, dans les activités, c'est très important. Mais aussi reconnaître le plus possible la famille choisie, son importance et son rôle, lui donner de l'espace, puis éliminer les éléments de discrimination qui feraient que les proches aidants, amis, mais de la communauté LGBT, soient pas mis tassés sur le côté parce que c'est pas de la famille biologique, là.
Bon, on est diffusé le 9 février, c'est dans quelques jours, donc, oui. Qu'aura lieu ce symposium. J'imagine qu'il y aura peut-être encore de la place. Est-ce qu'on peut s'inscrire? C'est gratuit, ça, c'est ça?
Oui, absolument. Donc, c'est très accessible, c'est offert gratuitement. C'est à la Bibliothèque nationale du Québec le 11 février. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Si jamais on bloque les inscriptions, parce qu'il y a quand même une capacité dans la salle, tentez quand même de nous écrire ou de nous appeler. On va voir s'il y a des désistements, puis qu'on puisse rentrer d'autres personnes dans la salle. Mais les inscriptions, c'est à 8h30, mais on souhaite commencer à 9h pour terminer autour de 16h. Donc, c'est métro Berry-UQAM. Puis, si vous avez des questions sur l'accessibilité, la mobilité, là, n'hésitez pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir. On est là pour vous.
C'est très important, tout ça. Laurent Brault, directeur général de la Fondation Émergence, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, Denis Martin.
Merci.